Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui, c'est Didier Lebret. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal.
Vous avez été diplomate, vous avez été ambassadeur en Haïti entre 2009 et 2012 et vous avez vécu ce terrible tremblement de terre qui est survenu à cette époque. Vous êtes ensuite revenu à Paris pour gérer le centre de crise. Crise que vous avez gérée de près quand vous étiez ambassadeur, et donc là aussi de multiples crises à gérer. Et puis de 2015 à 2017, vous étiez coordinateur national du renseignement à l'Élysée, et depuis vous êtes dans le privé, donc vous avez, disons, une vision assez précise de l'intérieur, des dangers et des menaces qui peuvent peser sur nous. Et en préparant un peu cette émission, on parlait du thème qui avait en fait pour la société française des fractures internes et des menaces externes. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer cela ? Est-ce que la France est en danger en fait, aussi bien de l'intérieur que par rapport à l'étranger ?
Alors, je crois que les gens qui s'intéressent aux questions de sécurité savent qu'il y a un continuum entre la sécurité intérieure et les menaces étrangères. On sait tous que un pays est fort quand il est stable, quand son économie est prospère, quand les messages qu'on veut faire passer ont une chance d'être entendus. Faut-il encore qu'on soit crédible à la maison, si j'ose dire ? Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'étais notamment à l'Élysée, comme coordinateur national du renseignement, c'était de voir à quel point nos ennemis avaient théorisé nos propres faiblesses. Vous savez, l'État islamique, c'est pas du tout des gens qui ont agi à la légère. Ils ont tapé là où c'était le plus fragile en Europe, c'était la France. Le plus fragile parce qu'ils connaissent pour... La raison qui est très simple, c'est que beaucoup de nos compatriotes sont allés assez rapidement sur les théâtres de guerre. Certains ont été dans les états-majors de propagande. Et donc, ils avaient une vision assez juste, malheureusement, des fragilités de notre pays. Et c'est pas seulement les frontières qui étaient pour eux. Ce qui était pour eux aussi, c'était ou plutôt ce qui était inflammable, c'était la situation de notre pays. Et le fait qu'on a toujours la plus grosse communauté musulmane d'Europe, et qu'on ait une situation sociale extrêmement tendue, l'État islamique a théorisé ce maillon faible en disant « c'est là qu'il faut taper, taper, taper ».
Mais en quoi la France serait plus fragile que l'Allemagne, qui a aussi une très forte communauté musulmane, ou l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui a des diverses communautés, pour ne pas parler de la Belgique ou de l'Espagne ?
Parce que je pense que donc nos ennemis extérieurs ont aussi théorisé les nombreuses fractures qui minent de l'intérieur notre pays. Peu de Français ont sans doute en tête les chiffres qui disent ce qu'est notre pays aujourd'hui. Vous avez un salaire médian en France qui est inférieur à 1800 euros. Ça veut dire que vous avez un Français sur deux qui vit avec moins de 1800 euros. Avant la crise Covid, vous aviez 8 millions de Français qui étaient à un seuil de précarité, c'est-à-dire qui vivaient en dessous du minimum de pauvreté. Vous en avez 10 aujourd'hui. On en discutait tout à l'heure, il y a 300 000 SDF dans notre pays. Donc, si vous voulez, pour un pays qui est à la fois une grande puissance, malgré tout, mais qui, depuis 40 ans, voit ses classes moyennes se précariser... les classes moyennes, c'est quoi ? Les classes moyennes, c'est le socle même de la démocratie. C'est ce qui fait la stabilité de nos sociétés. Si vous ajoutez à ça un système éducatif censé être robuste, qui permet d'avoir des citoyens éclairés et la possibilité de se projeter de génération en génération vers toujours plus de progrès et une amélioration de la qualité de nos vies et de notre capacité à vivre ensemble, si tous ces paramètres sont en train de se casser la figure, classe moyenne précarisée, montée de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, un système éducatif qui ne joue plus son rôle, vous avez les ingrédients pour que, de l'intérieur, le système se...
Mais alors, Didier Lebret, on va tout de suite vous répliquer que vous cherchez des excuses au terrorisme et que vous voulez expliquer par des causes sociales ce qui est un phénomène qui a une logique interne et qui, de toute façon, frappe la France pour ce qu'elle est, non pas dans ses précarités, mais dans sa force.
Il y a les deux. Le fait qu'on ait été effectivement très présent sur les théâtres de guerre au Levant, bon, ça nous désignait de manière naturelle. On n'était pas si nombreux. Une fois que vous avez dit le Royaume-Uni, enfin, les États-Unis et la France, vous avez à peu près tout dit. Mais je pense qu'une fois encore, on a été beaucoup plus impacté que d'autres parce que précisément, regardons, si on prend concrètement les cas de radicalisation. Dans la dernière vague, on voit bien que ce ne sont pas des jeunes qui ont été formés sur les théâtres de guerre, etc. Ce sont des jeunes, soit qui sont issus de la migration depuis plusieurs générations, soit de fraîche date. Mais peu importe, on voit très bien que le moment de décrochage, il est généralement social, il n'est pas idéologique. C'est un gamin qui est en porte-à-faux avec son père d'une communauté tchétchène où les gens sont particulièrement serrés et qui tout d'un coup se met à dévisser et épouse une cause qui n'était pas forcément la sienne 3 ou 4 ans après. Quand vous regardez tous les gamins qui ont décroché dans des zones aussi étranges, Vesoul, il y a toute une filière de gamins qui sont partis au Levant. Quand vous regardez dans le détail, et c'est pour ça qu'il faut comprendre de l'intérieur ce qui s'est passé, vous vous apercevez que c'est des cas typiques de décrochage familial, sentimental parfois, des gamins ou des gamines en rupture de banc. Et on voit bien que tout se mêle, ce décrochage social, cette recherche de repères fixes, fait qu'à un moment, dans un phénomène classique, je dirais, de dérive sectaire, parce que à quoi on assiste ? On assiste à une emprise qui est de type sectaire. Alors c'est plus spectaculaire parce que la cause qu'ils épousent est une cause particulièrement mortifère et spectaculaire. Et vous ajoutez à ça la capacité des réseaux sociaux à attirer les gens qui sont les jeunes, qui sont un peu égarés en rupture de banc, et vous avez tous les ingrédients pour quelque chose effectivement de très spectaculaire. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie d'un examen social approfondi.
Mais est-ce que la question sociale n'est pas aussi importante chez certains de nos voisins européens et donc en quoi la France se distingue de cela ? Est-ce que parce qu'on a une autre promesse, une autre vision ?
Je pense qu'on est plus exposé de par notre statut de puissance ayant vocation à intervenir partout, de par notre statut au Conseil de sécurité. On est plus exposé parce que on est dans un schéma qui est celui de la République où tous les enfants doivent trouver leur place. On n'est pas dans une société qui accepte facilement le communautarisme. On veut que le modèle de l'intégration fonctionne, donc chaque citoyen français doit avoir les mêmes chances. Or aujourd'hui, je pense que la déception est à la hauteur de ce que les Français voient, c'est-à-dire un modèle qui est grippé, qui n'arrive plus à intégrer, un modèle qui n'arrive plus à fabriquer de l'égalité. Prenons un exemple très, très concret sur lequel moi j'ai été frappé en épluchant les doléances qui commencent à nous arriver, sur lesquelles on travaille avec mon association Rendez les doléances. Je suis frappé de voir que les deux sujets qui étaient des sujets tabous, c'est-à-dire les sujets que le président Emmanuel Macron a sortis du champ du grand débat national. Il dit que vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas sur l'ISF et ne me parlez pas d'augmentation du point de SMIG. Bon. Ben, il se trouve que ces deux choses que je viens de citer sont les marqueurs de la souffrance des Français aujourd'hui. Pourquoi l'ISF ? Pas tellement parce que ça rapporte des centaines de milliards aux caisses de l'État, c'est pas ça. C'est parce que c'est un marqueur de l'injustice absolue. Vous avez, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, les 0,1% les plus riches de France ont vu leur pouvoir d'achat augmenter d'un quart. Est-ce qu'ils en avaient besoin ? Est-ce qu'ils étaient ceux qui avaient le plus besoin ? Pour les Français dont je lis aujourd'hui les cris, les coups de gueule, c'est un sentiment insupportable. On ne peut pas comprendre que l'argent qu'on ne trouve pas pour une main, on est capable en plus de faire des cadeaux pour l'autre. Et le SMIG, on s'aperçoit que les Français sont pas idiots. Ils voient bien aujourd'hui que dans la plupart des grandes métropoles françaises, avec un SMIG à 1 200 €, on ne peut pas vivre. On peut survivre éventuellement. Et donc les gens font des propositions pour un SMIG revalorisé, pour permettre ne serait-ce que à ceux qui travaillent de pouvoir être en capacité, de pouvoir s'améliorer, se former, d'être dans des trajectoires de vie positives. On voit bien, ces deux choses, le président Macron ne voulait pas en entendre parler. Alors que c'est au cœur du sentiment d'injustice des Français.
Mais est-ce qu'on peut expliquer l'insécurité par ce phénomène ? Et vous qui avez été à la tête de la coordination du renseignement, où on est l'état de la menace, est-ce que, ça fait maintenant plusieurs années que nous avons subi des attentats, est-ce que on doit apprendre à vivre avec une menace terroriste qui ne disparaîtra pas ?
On a appris à vivre, mais Je pense malheureusement que on est sur une tendance qui va se prolonger, même si c'est clair que la cause de l'État islamique était, comment dire, entendable pour des gens égarés et cherchant à épouser quelque chose qui leur donnait le sentiment de, quelque part, de faire à leur manière le bien, puisque en sacrifiant leur vie, ils ont le sentiment d'accomplir quelque chose de grand. Mais cette vision n'avait de sens que si elle était portée par une dynamique positive. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de dynamique positive de l'État islamique. Bon, il a été en partie stoppé là où il était. Ils n'ont plus accès à des ressources pétrolières comme c'était le cas avant. Ils ont le sac de la banque de Mossoul, ça a été une opération, et il n'y en a pas eu d'autres par la suite. Ce que je veux dire, c'est que cette espèce d'État qui s'était installé entre la Syrie et l'Irak, avait toutes les apparences d'une entreprise extrêmement prometteuse. D'où d'ailleurs le nom d'une des deux revues de l'État islamique. Il y avait Dar al-Islam et il y avait Dabiq. Et Dabiq, c'était le moment de bascule où l'islam reprenait ses droits. C'était le retour dans la conquête des territoriales. Et à partir du moment où une cause n'a plus le vent en poupe, elle est en situation d'échec, elle est moins facilement absorbable. En tout cas, elle attire moins une partie de ces jeunes qui ont les yeux rivés sur leurs écrans et qui ont été sensibles à la propagande de Daesh.
Oui, mais pourtant, il y a eu un attentat contre les anciens locaux de Charlie Hebdo, alors que Charlie Hebdo n'est plus localisé au même endroit depuis très longtemps. L'assassinat et la décapitation de Samuel Paty, l'attentat à la cathédrale de Nice, et qui a donné lieu à des débats, de nouvelles législations. On a quand même l'impression qu'on vit dans un climat anxiogène, qu'il y a toujours la peur des attentats en permanence, malgré la disparition de la cise territoriale de Daesh.
Là, dans les deux cas que vous citez, on est typiquement vers quelque chose qui a peu de lien de continuité ou de continuité avec un théâtre de guerre. Là, c'est vraiment de la manifestation endogène de quelque chose qui n'a pas un lien. Alors même si ensuite ils se revendiquent d'eux, mais on voit très bien dans la façon dont les choses se sont préparées et comment ça a été exécuté, que ce sont des jeunes qui ont à un moment dévissé et qui épousent une cause parce qu'elle leur paraît être à la fois la plus populaire dans leur esprit et la plus emblématique des combats qu'ils veulent mener.
Mais donc on n'en finira jamais.
Je pense que y a des effets de mode. On se souvient, dans les années 70, c'était les dérives sectaires, jusqu'au début des années 80. Il y a une mode de ce type de terrorisme assumé, non pas comme une manifestation de terrorisme, mais comme un combat qui est censé être juste. Je pense que ça passera, mais en tout cas, je ne le vois pas passer à un horizon immédiat.
Et les attentats du type de ceux qu'on a subis en novembre 2015, qui nécessitent quand même une logistique, une organisation qui semble plus importante que ces personnes un peu isolées qui ont été tuées Samuel Paty ou commettre un attentat contre la cathédrale de Nice, est-ce que ce type d'attentat est toujours possible ou est-ce que les coups portés à l'État islamique ont été tels qu'ils ne sont plus en mesure de commettre des attentats de grande ampleur? Et puis, je vous interroge sur un autre point après cette réponse.
Non, je crois que c'est malheureusement toujours possible. Ça sera plus compliqué parce que, entre-temps, on a appris de nos faiblesses, de nos erreurs. On n'a pas repris complètement le contrôle de nos frontières, mais en tout cas, il y a une meilleure coopération entre États au sein de l'Union européenne. Après, il y a toujours des maillons faibles. La Turquie est un maillon faible pour la sécurité de l'Europe, dans la mesure où on a des moyens de pression qui sont très limités pour savoir exactement ce qui se passe des deux côtés de la frontière syro-turque, pardon. On a peu de leviers sur des pays qui pourraient nous aider, mais qui le font pas. Mais néanmoins, on a appris et on a notre législation actuellement nous permet quand même, je pense, de pouvoir faire davantage de prévention que c'était le cas il y a 4 ou 5 ans.
Et vous disiez que les terroristes connaissent parfaitement la cité française. Est-ce que on tombe pas dans leur piège lorsque l'on évoque autant les attentats et que l'on fait quelque part leur propre communication?
Oui, non, c'est clair. C'est clair que dans un monde où la médiatisation de ce qu'on fait est aussi important que l'acte, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on leur offre une tribune, et on peut imaginer que les médias sont coincés parce que on peut pas ne pas couvrir des actes qui sont aussi qui révulsent à ce point la conscience quand on s'attaque à des innocents, à des civils, à des enfants, à des instituteurs, à des hommes de foi. On voit bien qu'il y a quelque chose qui nous ébranle parce que c'est profondément injuste. On peut imaginer dans des périodes de guerre qu'il puisse y avoir des moments d'asymétrie, comme on dit, où il y a même dans les moments de résistance héroïque, il peut y avoir des dérapages, mais on se fixe toujours un cadre, c'est toujours normé. On sait que aller trop loin dans la réplique ou aller trop loin dans certaines formes de résistance, quand il s'agit de résistance, ça peut discréditer la cause. Or là, il n'y a pas de limite, puisque il s'attaque à ce qui, pour nous apparaît comme étant le plus sacré.
Oui, mais est-ce que il n'y aurait pas une réflexion à avoir, c'est comment ne pas en parler, parce que bien sûr il faut parler des attentats, mais comment le faire sans que ça soit des propositions. Qu'est-ce que vous pensez un peu des différentes propositions qui sont faites dès qu'il y a un attentat, de durcir les textes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un effet où finalement la grande vague terroriste est moins forte qu'elle n'a été en 2015? Mais en même temps qu'on vit toujours avec la même angoisse, la même anxiété par rapport à cette menace, et que du coup, on donne des arguments à ceux qui nous en veulent.
Moi, je considère que l'approche qui consiste à dire un attentat, une loi, est mauvaise. Elle est mauvaise parce que elle nous oblige à chaque fois à surréagir, et de toute façon, l'arsenal tel qu'il existe aujourd'hui, juridique, répressif, il est suffisant, me semble-t-il. Aller au-delà, c'est prendre le risque de faire exactement aussi ce que souhaitent ceux qui nous attaquent, c'est miner de l'intérieur notre fonctionnement démocratique, notre système de droit, mettre en place des tribunaux d'exception, accepter l'idée qu'on puisse s'installer durablement dans un état d'urgence. Tout ça, c'est des choses, je pense, qui sont non seulement la plupart du temps inefficaces. Vous prenez par exemple, je sais pas, la façon de surveiller des gens qui ont purgé leur peine en les maintenant, par exemple, sous bracelet électronique. Ça n'a jamais empêché personne de commettre un attentat. Je veux dire, entre deux pointages au commissariat, quand vous êtes dans l'obligation de le faire, vous pouvez très bien commettre un acte d'opportunité. Donc on voit bien que ce ne sont pas le pire étant ceux qui prônent une espèce de justice ou de police prédictive qui consiste à dire, à partir du moment où on a un certain nombre d'éléments concordants qui prouvent que vous pourriez être dans l'état d'esprit où vous allez commettre un crime, on va vous arrêter avant. Donc ça s'appelle Minority Report, mais dans la vraie vie d'une démocratie, ça ne devrait jamais exister. Or, vous avez des gens aujourd'hui qui sont exactement dans cet état d'esprit, qui vous disent, il faut prévenir les actes, mais aujourd'hui, les moyens de droit dont on dispose permettent de faire de la prévention. Si vous êtes objectivement, on constate que vous êtes en association avec une entreprise à caractère terroriste, on n'attend pas la commission de l'acte pour vous arrêter. On peut le faire avant. Donc on a largement les moyens d'agir.
Mais comment expliquer alors cette surenchère, ce concours, l'épine des propositions? Dès qu'il y a un attentat, on y a encore assisté. Certains remettent même carrément en cause le contrôle de constitutionnalité des lois en disant que si la loi Avia avait été adoptée, Samuel Paty serait encore en vie. Comment expliquer ce déferlement? Et est-ce que, au fur et à mesure, vous ne sentez pas, vous, depuis que vous regardez les choses du privé, non plus du public, qu'il y a quand même un glissement progressif vers cela? Et que l'on est au fur et à mesure entraîné dans ce type de législation et de remise en cause de certains principes fondamentaux.
Je pense que la tentation, une fois encore, elle est grande à chaque fois de donner le sentiment qu'il y a des mesures magiques qui vont permettre de mettre un terme à ce qui devient de plus en plus insupportable. Je pense qu'il n'y a pas de mesure magique, il faut simplement que la nation soit forte, que les dirigeants ne soient pas dans la surenchère permanente, ce qui est un aveu de faiblesse. Là encore, ça avait été théorisé par l'État islamique, qui, on appelle ça... Alors il y avait deux théories, il y avait celle des mille une entailles. À partir du moment où vous avez défini votre cible, vous ne cessez de la harceler, et en prenant le spectre le plus large, en changeant en permanence les cibles, de façon à créer un sentiment d'insécurité absolue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que, à partir d'un événement qui a un retentissement médiatique considérable, mais qui reste quand même, je veux dire, en termes de dommages réels limités, faire en sorte que ce soit la société elle-même qui génère le risque maximal. C'est-à-dire que ça n'est pas l'assassinat d'un civil innocent qui en soi remet en question la stabilité de notre pays. Ce qui remet en question la stabilité, c'est le sentiment que peuvent avoir certains d'impunité, qui vont vouloir se faire justice à eux-mêmes et qui vont commencer à se dire, puisque l'État est impuissant à enrayer cette espèce de mécanique infernale, allons nous-mêmes là où ça, où le problème se pose, et là vous entrez effectivement dans une logique de surenchère avec des gens qui vont à un moment décider de faire le siège d'une mosquée eux-mêmes et de commettre l'irréparable, et là vous entrez dans quelque chose qui a une fois encore été théorisé, où vous avez la très grande, l'immense majorité de la communauté musulmane française qui est terrorisé au sens propre chaque fois qu'il y a un attentat de ce type, parce qu'il se dit, mon Dieu, ça va encore nous être reproché comme étant appartenant à une religion qui prône le terrorisme, comme n'étant pas intégrable dans la communauté française, alors qu'ils rêvent que d'une chose, c'est qu'on parle pas d'eux et qu'ils vivent leur petite vie comme nous, quotidienne au mieux, et que... Mais on voit bien que c'est ça qui est visé, c'est cette faculté que la société, à un moment, pourrait avoir de se faire justice à elle-même et d'entraîner une dynamique que plus personne ne maîtrisera.
Est-ce que vous pensez-vous de l'attitude de Monsieur Stoltenberg ou de Madame Ardern qui, après les attentats d'Utøya ou de Christchurch en Nouvelle-Zélande, donc Norvège, on dit non, la réponse aux terroristes, c'est plus de démocratie. Est-ce que notre société est trop fragile pour avoir ce type de réaction?
Je pense que ça devrait être. Ça devrait être
ce n'est pas tout à fait le cas.
C'est pas le cas, mais je pense que idéalement pouvoir dialoguer avec. Alors, c'est bien qu'on a toujours une difficulté de dire avec qui on peut dialoguer. Par exemple, quand on parle de la communauté musulmane, parce qu'on a un problème de représentativité, c'est quelque chose sur lequel on a avancé avec beaucoup de tâtonnements, d'approximations et parfois de maladresse. Je pense que c'est important que ce dialogue puisse exister de façon à ce que une communauté entière ne se sente pas stigmatisée. Ça me paraît être vraiment, si on veut ne pas perdre des gens dont on a besoin pour qu'ils puissent être notre meilleur point d'appui pour exercer aussi eux-mêmes, faire du contrôle social de ceux qui qu'on a besoin d'observer, de savoir exactement quels sont les risques s'ils existent. Je crois que c'est obligatoire, et bien évidemment la démocratie s'honore à chaque fois que elle est capable de parler au-delà de l'incident ou du drame qui se produit.
Est-ce qu'il faudrait dire aux Français, voilà, on va vivre avec le terrorisme de façon durable, il faut en être conscient, on aura de nouveau des attentats régulièrement, parce que là, le risque, c'est qu'au prochain attentat, il y ait de nouveau un déferlement et que un jour ou l'autre, les digues vont céder, et que les solutions les plus sécuritaires, y compris de nature à remettre en cause l'état de droit, soit prise. Est-ce qu'il ne ferait pas aller directement devant le public pour dire, voilà, faisons face, le danger est face à nous, mais restons unis et dignes?
Je pense que c'est un message que les Français peuvent entendre. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Par exemple, dans le cas de l'assassinat du professeur Paty, je veux dire, c'est évident qu'aujourd'hui, la chaîne, elle est rendue beaucoup plus sensible, courte et complexe, du fait que vous avez le bras qui va agir, c'est-à-dire ce jeune Tchétchène qui, à un moment, décide d'être un justicier de l'islam et de s'attaquer à cet enseignant. Mais en réalité, le problème, il est bien plus en amont. Il est dans le fait que vous avez une communauté de gens qui aussi ont intérêt en permanence à jeter de l'huile sur le feu pour pouvoir exister. Et moi, je pense que là où il faut porter le fer aujourd'hui, c'est sur tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, en permanence incitent à la haine. Alors eux-mêmes sont suffisamment malins pour ne pas aller jusqu'au point où ils vont désigner l'ennemi et dire voilà ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, cette espèce de climat qui est créé à travers ces appels à la haine et quasiment au passage à l'acte, c'est ça, c'est le maillon, à mon avis, le plus sensible sur lequel on peut avoir prise. Or, aujourd'hui, le dispositif qui existe, qui consiste à faire remonter sur une plateforme qui fonctionnait pas beaucoup, il n'y avait pas suffisamment de réactivité, la plateforme Pharos, des messages d'alerte liés à l'incitation à la haine, etc. Je pense que ça n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment muscler cette partie de veille sur les réseaux et être beaucoup plus dur sur le plan pénal vis-à-vis des gens qui jouent avec le feu et qui incitent en permanence à travers leur message à la haine.
Merci Didier Lebret. Merci pour ces éclaircissements et cette prise de position.
Merci Pascal Boniface. Merci beaucoup.